Europe 1.
Ovide est le plus grand poète de l'amour de l'Antiquité romaine. Il a vécu à l'époque du premier empereur Auguste. Mais une faute dont on ignore la nature a poussé l'empereur à l'exiler sur les lointaines rives de la mer Noire. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Ovide, les tourments du poète romain de l'amour, épisode 1, le Don Juan de Rome. Nous sommes à Rome au début de l'hiver 8 après Jésus-Christ. Un messager se présente à Ovide. Il est envoyé par l'empereur Auguste. Le maître de Rome est aussi un membre de la famille de la femme du poète. Cette convocation officielle n'augure rien de bon. Ovide est conduit dans la demeure de l'empereur sur la colline du Palatin. Auguste est furieux. Il accable le poète pour cette faute qu'il a commise et qui est une offense. Sa décision est prise. Ovide sera relégué ad tempus, pour un certain temps encore indéfini. Une relégation est moins grave qu'un exil. L'exil prive le condamné de ses droits civiques et politiques et il perd ses biens. Par opposition, un relégué conserve ses biens et ses droits civiques. Mais la relégation n'en est pas moins une mort sociale puisqu'il n'a plus le droit de participer à la vie en société dans la capitale. Ovide cherche des arguments pour se défendre. Cette faute qu'on lui reproche, il n'a pas voulu la commettre. Il a vu une chose qu'il ne devait pas voir. Sa seule faute, c'est d'avoir des yeux. Mais Auguste reste inflexible. Il lui laisse quelques heures pour préparer ses affaires. Il quittera Rome demain. Un bateau l'attend déjà en partance pour sa nouvelle demeure à Tomis, une ville située sur les rives du pont Euxin, l'actuelle mer Noire, aux confins du monde romain. Tout commence à Sulmone, une ville des Abruzes, à l'est de Rome. C'est là qu'Ovide voit le jour le 23 mars 43 avant Jésus-Christ. Comme le veut la tradition romaine, le bébé est déposé au pied de son père une huitaine de jours après sa naissance. Si le père le dédaigne, il sera abandonné sur un tas de fumier au coin de la rue. Cette pratique s'appelle l'exposition. Mais le père d'Ovide est heureux d'avoir un fils et il le reconnaît. Il le prend dans ses bras et il lui donne son nom, Publius Ovidius Naso. Oui, en fait, ce sont bien trois noms. Les tria nomina, comme on dit en latin, comme on le fait pour tous les citoyens. Publius est son prénom, Ovide, son nom de famille, et Nason, son surnom. C'est comme ça qu'on l'appellera dans le quotidien. Un surnom qui évoque probablement la forme de son nez un peu trop grand. La famille d'Ovide appartient à l'ordre équestre. C'est l'équivalent à Rome de la petite aristocratie. En cette fin de la République romaine, au sommet de la hiérarchie sociale, il y a l'ordre sénatorial. Ses membres exercent les plus hautes magistratures. En dessous, il y a l'ordre équestre. Pour en faire partie, il faut posséder une fortune en terre au moins égale à 400 000 sesterces. Ça correspond à peu près à 304 000 euros pour nous, ce qui fait l'équivalent d'un petit studio à Paris aujourd'hui. Mais la famille d'Ovide a des rêves d'ambition sociale, et cela passe à l'époque par une bonne éducation pour avoir un bon métier et faire un bon mariage. Rien de nouveau sous le soleil, hein, comme vous pouvez le constater. Ovide fréquente donc les bancs des écoles où, comme tous les enfants de son âge, il apprend à lire avec l'Iliade et l'Odyssée de Homère qui racontent la guerre de Troie et l'errance d'Ulysse en mer Égée. Puis, à l'adolescence, il prend des cours de rhétorique pour apprendre à faire des discours. C'est un art que doit maîtriser tout citoyen qui se respecte et qui veut jouer un rôle dans la vie politique. Comme beaucoup de jeunes romains de la bonne société, à la fin de l'adolescence, il complète son éducation dans des écoles grecques. Il voyage dans le pays de la philosophie et suit des cours auprès de différents maîtres. Ce voyage d'études réservé aux garçons est comparable à notre programme d'Erasmus aujourd'hui. Ovide se passionne pour la mythologie. Il connaît tous les dieux, tous les héros et leurs aventures fascinantes. Il s'intéresse aussi au culte à mystère. Bon, là, on doit faire une petite pause pour parler religion. La religion à l'époque romaine n'a rien à voir avec la nôtre. C'est un polythéisme très complexe. Il y a des dieux pour tout, et au sommet de ce peuple divin, il y a 12 dieux principaux que vous connaissez, Jupiter, le roi des dieux, Junon, sa compagne qui protège les épouses, Minerve, la déesse guerrière de la sagesse, Neptune, le dieu de la mer, Vénus, la déesse de l'amour, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque localité a ses dieux et divinités protectrices. Ça va de la nymphe qui protège une source à la déesse du foyer Vesta, dont le feu sacré brûle perpétuellement à Rome grâce aux vierges vestales. Et c'est pas fini. Il y a toutes les croyances domestiques, les ancêtres et les dieux qui protègent la maison et que l'on vénère chez soi. Et puis il y a encore des sortes de clubs autour d'une divinité dans lesquels on rentre à condition d'être initié. Très souvent, ces clubs sont des cultes à mystère. Ça veut dire qu'on découvre par l'initiation des secrets sur cette religion. Et comme ce sont des secrets, ils ne sont pas arrivés jusqu'à nous. On suppose que lors de son voyage en Grèce, Ovide est initié au mystère d'Eleusis, un culte ésotérique dont le centre est la ville d'Eleusis, située près d'Athènes. Il est lié à la déesse Déméter qui fertilise les sols, ainsi qu'à sa fille Perséphone, mariée à Hadès, le dieu des enfers. Ce culte possède une dimension chthonienne, c'est-à-dire tournée vers les sous-sols et la terre. Et plus il connaît les mythes, plus Ovide les met en doute. Comme l'atteste le poème 12 du troisième livre des Amours, Ovide n'est pas crédule. Pour lui, ce sont les poètes qui ont inventé les mythes. Est-ce à dire qu'Ovide serait un athée dans un monde où le divin est absolument partout ? C'est difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'Ovide montre une liberté d'esprit par rapport aux injonctions sociales qui n'est pas banale pour son époque. De retour de son voyage en Grèce, Ovide a environ 20 ans. Il épouse une jeune fille qu'on a choisie pour lui. C'est normal à l'époque parce que les mariages sont l'union de deux familles et non de deux individus. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Et ce qu'on souhaite à un couple, c'est la concorde, c'est-à-dire une bonne entente et de l'affection. D'ailleurs, cette union sera courte car stérile. Ovide divorce ou répudie sa femme qui ne lui donne pas d'enfant. C'est probablement à cette époque aussi qu'Ovide s'installe à Rome. Il va certainement décevoir tous les espoirs familiaux en refusant de se lancer dans une carrière d'avocat ou dans une carrière politique. Ce qu'Ovide veut, c'est écrire. Il appartient à la dernière génération des grands poètes élégiaques romains. Il est trop jeune pour avoir connu personnellement Virgile, qui a produit la plus belle œuvre romaine, l'Énéide, qui donne ses origines à la ville de Rome en partant de la guerre de Troie. Il n'a pas connu non plus les poètes de l'amour que sont Horace, Catulle, Tibulle ou Properce. Mais ces écrivains ont fondé l'élégie romaine, cette poésie qui, au départ, était une lamentation chez les poètes grecs et qui devient la forme poétique de l'amour et des aventures du quotidien chez les Romains. Ovide sera donc un élégiaque. Son premier livre, ce sont Les Amours, publié vers 23 avant Jésus-Christ quand il a 20 ans. Au départ, cet ouvrage se compose de 5 chapitres qu'on appelle les livres. 10 ans plus tard, Ovide en fera une réédition où il n'en restera plus que 3. Il a manifestement enlevé des poèmes qui lui ont semblé mauvais en vieillissant. Les Amours retracent la vie d'un séducteur romain qui, en réalité, est un double littéraire d'Ovide dont l'amante favorite se nomme Corinne. Tous les poètes élégiaques ont une amante préférée. Parfois, elle est bien réelle et le poète laisse suffisamment d'indices pour retrouver son identité. Mais comme Ovide le dit lui-même au livre 3, Corinne n'existe pas. Elle est sa création. Pour nous, historiens, elle est un personnage composite qui forme un cliché romain, celui de la courtisane, plus toute jeune parce qu'elle semble avoir la trentaine, mais experte dans son métier. À Rome, les jeunes hommes découvrent l'amour avec les courtisanes, des prostituées indépendantes. Ou plutôt, ils succombent à la comédie de l'amour contre de l'argent. Pour s'attacher son client, la courtisane sait faire attendre, minauder, opposer des rivaux. Et voilà notre Ovide qui nous écrit des poèmes sur l'enfer que représente un dîner avec sa belle quand elle est accompagnée d'un autre amant. Il parle aussi à sa porte qui reste close, ou la dispute parce qu'elle a failli se tuer en prenant un abortif sans l'en avertir. Ovide brosse un tableau de la vie mondaine et amoureuse des Romains dans une capitale qui pratique la drague comme un sport de haut niveau. La vie semble heureuse. On en oublie que Rome est en pleine crise politique. La République se meurt depuis l'assassinat de Jules César. Son petit-neveu et fils adoptif Octave en a profité pour imposer son pouvoir personnel. Il est perçu comme l'homme fort qui a ramené la paix après un siècle de guerre civile. En 27 avant Jésus-Christ, le Sénat a décerné un nouveau surnom à Octave. Il l'a nommé Auguste, c'est-à-dire celui qui a une valeur supérieure aux autres. C'est ainsi que ce surnom va devenir progressivement celui qui qualifie l'empereur romain. Mais l'empire romain du nouvel empereur, Auguste donc, conserve les apparences d'une république avec le maintien des institutions de pouvoir comme le Sénat. Auguste est seulement au-dessus d'elle et gouverne avec elle. Quand Ovide connaît ses premiers succès littéraires, Auguste est donc le maître de Rome depuis quelques années. Il considère que les mœurs se sont délitées à la faveur de la guerre civile. Les gens préfèrent le célibat au mariage et ne font plus d'enfants. Et ceux qui se marient divorcent en fonction de leur dernière tocade. Et puis les adultères, n'en parlons pas, ils sont devenus monnaie courante. Pour Auguste, cette vie dissolue pose problème car elle risque de porter préjudice à la grandeur de Rome. Il va donc méditer un plan pour réarmer l'Empire romain. Les amours d'Ovide témoignent des derniers feux de cette période de liberté des mœurs. Après les amours, Ovide se fait remarquer pour un nouveau livre, Les Héroïdes. Il s'agit d'un recueil de lettres d'amour fictives écrites par des personnages de la mythologie. C'est un nouveau succès qui l'impose sur la scène artistique romaine. À cette époque, les auteurs en vue font des lectures de leurs œuvres dans les espaces publics et il y a un marché du livre qui alimente les bibliothèques publiques et privées. C'est à cette époque qu'Ovide épouse sa deuxième femme, dont il a probablement une fille. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une certaine Périlla, qui posséderait elle-même des talents de poète. Mais pour le moment, Ovide surfe sur le succès. Il écrit un traité de cosmétiques réservé aux femmes parce que, je le cite, « un joli visage mal entretenu se perdra ». Il témoigne du soin que les Romaines accordent à leur physique. Et ensuite, il écrit son œuvre majeure qui va lui attirer beaucoup de problèmes. Un manuel de drague. Vous voulez découvrir ses conseils ? Rendez-vous dans le second épisode. À très vite !